Alors, Marie-France, directement, comment tu appelles cette journée du 8 mars, toi?
Oui, ben la Journée internationale du droit des femmes, parce que ça a déjà été la Journée internationale de la femme, et tu me rappelais qu'il y avait eu le Salon de la femme dans les années 70. C'est un peu comme Journée de la femme, c'est comme Journée de la secrétaire, ou c'est pas la Saint-Valentin, c'est pas une femme qu'on met sur un piédestal, qui ne réclame pas trop, à qui on rend hommage. Ça a été après ça, et jusqu'à il y a très récemment, la Journée des femmes, Journée internationale des femmes, parce qu'on revendique en tant que femme partout dans le monde, et c'est devenu tout récemment la Journée internationale des droits des femmes, parce que le droit, ça parle de construire un avenir. Il y a un fonds qui est maintenant acquis. Ça passe par la politique, par le droit salarial, le droit des tribunaux, le droit de ne pas être agressé. Il y a quelque chose d'organisationnel. Il y a quelque chose en marche et qui s'organise dans Journée internationale des droits des femmes. Alors voilà, je vous souhaite à toutes une excellente Journée internationale des droits des femmes. Surtout pas Journée de la femme. Vraiment, là, ça fait archaïque, un peu.
Je me rappelle, parce que c'est Jacqueline Vézina qui animait toujours, en fait, qui organisait le Salon de la femme.
Oui.
Ça a passé pendant des années, puis tout à coup, à un moment donné, on a dit que c'était réducteur que de dire le Salon ou la Journée de la femme.
Ben, les temps changent, les combats évoluent aussi, puis elle a certainement été une pionnière, il faut saluer toutes les pionnières qui ont pavé le chemin, mais on est rendu ailleurs aujourd'hui, carrément. Oui.
Alors, Journée internationale des droits des femmes.
La question, c'est est-ce qu'il faut encore une journée comme ça aujourd'hui? Je te dirais que oui. Il faut vraiment, par contre, reconnaître les acquis. Là, je parle pour le Québec. Je parle vraiment pour nous, société privilégiée. Et ne pas reconnaître les acquis qu'on a, ce serait indécent, même s'il reste encore beaucoup de travail à faire. Parce qu'on n'est pas encore égal. Je regardais ce matin, il y a un écart salarial de 16% chez les non-syndiqués entre les femmes et les hommes, à l'avantage des hommes, bien sûr. Chez les syndiqués, il est de 3%. Ça parle quand même de l'importance des syndicats. Beaucoup se battent pour un salaire minimum à 15 $. C'est une revendication qui aiderait certainement les femmes particulièrement présentes dans les métiers du caring. Tu sais, prendre soin des aînés, prendre soin des enfants, ce sont des métiers majoritairement féminins. La charge mentale dont on parle beaucoup ces temps-ci, penser à tout coordonner, s'occuper du domestique, ça existe, ça doit être discuté, ça doit être partagé, et ce l'est d'ailleurs de plus en plus chez les plus jeunes où les hommes s'occupent beaucoup du domestique, mais c'est encore une chose qui repose sur les épaules des femmes. Le fameux plafond de verre existe encore en affaires, dans les CA des grosses compagnies, en politique bien sûr, même si on s'approche de la parité, mais c'est très fragile. On l'a vu cette semaine avec ces deux femmes dans le gouvernement féministe de Justin Trudeau qui sont sur le bord de la porte. En fait, je pense qu'en politique, la place des femmes sera normalisée quand on en sera non pas seulement, Paul, à une première génération ou à une première femme première ministre ou à une première femme mairesse de Montréal, mais qu'on en sera rendu à la deuxième, troisième, que ce sera rendu normal et banal que nous soyons à ces postes-là. On n'est pas encore égal parce qu'il y a tout ce mouvement MeToo qui a été un éveil collectif, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, et des comportements agressants et humiliants et discriminatoires dans la sphère de l'intimité et du pouvoir ne sont plus acceptables, mais ils demeurent que 95% des victimes d'agressions, surtout des femmes, ne portent pas plainte, que les tribunaux sont hautement inefficaces dans ces cas d'agression sexuelle. Et d'ailleurs, des femmes de 4 partis politiques travaillent pour les réaménager. On sent que quelque chose bouge. Mais je te le rappelle, ici au Québec, dans notre société riche, on est en voie d'égalité. C'est une société où on ne le répétera jamais assez. Il fait bon d'être une femme, plus qu'en France, plus qu'aux États-Unis et plus, évidemment, que dans n'importe quel pays moins développé où ce n'est pas les mêmes circonstances. Mais c'est pour ça que la vigilance de tous et de toutes, hommes comme femmes, est nécessaire. Et moi, j'inclus vraiment les hommes dans mon féminisme. Les nouvelles générations de garçons, de jeunes hommes sont formidables et c'est vraiment sur eux qu'il faut compter comme alliés. Et ça m'amène à te parler de féminisme. C'est toujours l'affaire qui fâche et qui dérange. Moi, je suis pour un féminisme humaniste qui inclut, je te le disais, les hommes, mais qui est inclusif, qui est ouvert à toutes et à tous. il faut procéder ensemble. La tendance actuelle, la plus entendue d'ailleurs, la plus vocale, comme on dit, du féminisme actuel, c'est le féminisme intersectionnel. Ça, je t'explique, ça veut dire en silo. Les afro-féministes, les musulmanes pratiquantes féministes, les féministes autochtones, chacune dans sa lutte, sans référence commune, sinon que la femme blanche occidentale est presque vue, presque perçue comme une adversaire, alors qu'elle est quand même elle-même en quête d'égalité. Et l'absence de solidarité entre femmes, toutes discriminées d'abord parce qu'elles sont femmes, ne mène à mon avis qu'à la chicane et à l'isolement. Et ça engendre une chose que je déplore énormément du côté du féminisme, la victimite aiguë. Ma situation comme victime est pire que la tienne. On a vraiment l'impression que c'est ça qui est mis de l'avant en ce moment. Et à mon avis, on se trompe de combat dans l'intersectionnel militant. La femme blanche, elle est aussi l'instrument du patriarcat. Mettons une femme blanche préposée aux bénéficiaires et abusée, c'est pas exactement ce qu'on appelle être au top. Alors, je ne me reconnais pas dans ce féminisme en silo qui hiérarchise selon ta qualité de victime. On a vraiment tout à gagner à nous unir, à devenir banalement 50% du pouvoir plutôt que de s'auto-enfermer dans ce qui nous isole. Je pense que uni est banal plutôt que victime, divisé. Je pense que respectueuse, bienveillante, avec un pouvoir partagé, allié des hommes, je pense que c'est vraiment comme ça que nous serons extraordinaires. En étant banal, en étant 50% du pouvoir, donc banal, nous devenons extraordinaires et c'est vraiment dans ce féminisme-là que moi je me reconnais, un féministe vraiment ouvert à toutes et à tous aussi, parce que les jeunes hommes, et pas que les jeunes, les hommes développent leur féminisme et sont vraiment des alliés.
Alors, je pense que tu vas déjà susciter beaucoup de réactions.
Je pense parce que on est plusieurs à se voir comme ça, mais je te dis, la tendance dominante du féminisme actuellement, en tout cas la plus visible et la plus audible, c'est vraiment un féminisme qui isole et qui, je vais me faire pitcher des tomates.
Ah, ça c'est sûr, c'est déjà commencé, regarde.
Qui voit la femme en victime.
Oui, alors... Bonne tomate. Bonne tomate, tu vas pouvoir faire une sauce à spaghetti,
exactement,
je pense.
Exactement, mais surtout,
dans les prochaines heures, c'est sûr.
À toutes, vraiment.
Oui, oui, mais t'es comme un paratonnerre, t'attires.
Oui, je sais, ce sujet-là, le féminisme, est vraiment encore un sujet qui fâche.
Oui, oui.
Et pourtant, mon Dieu, qu'on devrait construire plutôt que de s'isoler.
Merci et bon week-end.
Bonne fin de semaine.